billets seront annulés. Pour les mêmes raisons, la soirée électrofrette Vidéotron sera reportée au dimanche 5 février à 19h. Ouverture des portes à 18h. La zone Auto-Québec fermera à 23h, alors que le camping de bonhomme Vidéotron et la glisse urbaine fermeront à 20h comme prévu. En collaboration avec ses partenaires, la Ville de Québec a mis en place, depuis le 1er février, un site temporaire d'urgence en cas de débordement dans les refuges et les haltes chaleur. Situé dans le quartier Saint-Roch, le site permettra aux personnes vulnérables d'avoir accès, la nuit, à un lieu chaud et sécuritaire. Le service sera offert jusqu'au matin du dimanche 5 février. Le service de police assurera aussi une vigie dans les circonstances. La Ville rappelle aux citoyens d'être prudents et de signaler toute personne en situation de vulnérabilité à l'extérieur en composant le 911. Avec le temps glacial qui s'installe, le Centre du Rocher est à la recherche de plusieurs items hivernaux comme des manteaux, des bottes, des tuques, des mitaines, des foulards, des bas, etc. pour regarnir son porte-manteau. Le porte-manteau, c'est un vestiaire partage qui permet à tous de se procurer des items vestimentaires tout à fait gratuitement. Venez déposer le tout directement au Centre du Rocher, situé au 680 rue Raoul Jobin, tous les jours entre 9h et 20h. La Gendarmerie royale du Canada lance une campagne de prévention de la fraude. Du 6 au 10 février 2023, les organismes impliqués et leurs partenaires publieront des conseils et bulletins de diverses autres ressources sur les réseaux sociaux. Les fraudeurs ciblent n'importe qui, mais surtout les personnes vulnérables et les personnes âgées. Ils utilisent des stratagèmes comme la présentation d'une fausse situation d'urgence ou encore la tenue d'une fausse démarche légale impactant un proche qui nécessite un paiement rapide. En 2022, le CAFC a reçu des signalements de fraude totalisant 530 millions de dollars de pertes pour les victimes. Ce montant est de 40 % plus élevé que celui estimé pour l'année 2021. On estime que seulement 5 à 10 % des personnes qui sont victimes de fraude le signalent. Si vous êtes victime d'une fraude ou connaissez quelqu'un qui l'a été, signalez-le à votre service de police locale ainsi qu'au CAFC au 1-888-495-8501 ou en ligne à l'aide du système de signalement des fraudes SSF, même si aucune perte financière n'a été subie. C'est ce qui complète l'édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. En général, nous laissons les seules circonstances extérieures et éphémères inspirer nos actions. Elles sont, en réalité, la cause de notre distraction. Au plus près de toute chose, gît ce pouvoir qui en façonne l'existence. À côté de nous s'exécutent perpétuellement les plus grandes lois. À côté de nous ne se trouve pas l'ouvrier que nous avons engagé, avec lequel nous aimons tant parler, mais l'ouvrier de qui nous sommes l'ouvrage. Combien vaste et profonde est l'influence des subtils pouvoirs du ciel et de la terre. Nous essayons de les percevoir, mais nous ne les voyons pas. Nous essayons de les entendre, mais nous ne les entendons pas. Fondus en la substance des choses, ils ne sauraient s'en séparer. Ce sont eux qui, dans tout l'univers, poussent les hommes à purifier et sanctifier leur cœur, à se parer de leurs vêtements de fête pour faire offrande de sacrifices et d'oblations à leurs ancêtres. ils forment un océan d'intelligence subtile. Ils sont partout, au-dessus de nous, à notre gauche, à notre droite, et nous entourent de tous côtés. Nous sommes les sujets d'une expérience fort passionnante à mes yeux. Ne pouvons-nous pas nous passer de notre monde de commérage pendant quelques instants en de telles circonstances et faire confiance à nos propres pensées pour nous remettre en joie? Confucius dit très justement, « La vertu ne reste pas comme une orpheline abandonnée. Elle doit nécessairement avoir des voisins. La pensée nous permet d'être hors de nous d'une manière saine. Nous pouvons, par un effort conscient de l'esprit, nous élever au-dessus des actions et de leurs conséquences. Et toute chose, bonne et mauvaise, passe sous nos yeux comme un torrent. Nous ne sommes pas entièrement impliqués dans la nature. Je peux être aussi bien le morceau de bois porté par le courant et un drap qui le regarde depuis l'en haut. J'ai pu être affecté par une représentation théâtrale et à l'inverse, je ne puis ne pas l'être affecté par un événement réel qui semble me concerner de beaucoup plus près. Je ne me connais qu'en tant qu'entité humaine, en tant que scène, pour ainsi dire, de pensée et d'affect, et je suis conscient d'une forme de dualité qui me permet de me tenir autant à l'écart de moi-même que je le suis des autres. Aussi intense que soit mon expérience vécue, je suis conscient de la présence active et critique d'une partie de moi-même qui, pourrait-on dire, ne fait pas partie de moi, mais qui est spectatrice. Prends note de mon vécu sans y participer. Et cette partie-là n'est pas plus moi que vous. Lorsque le drame, la tragédie peut-être de la vie s'achève, le spectateur s'en va. Pour lui, c'était une forme de fiction, rien de plus qu'une œuvre de l'imagination. Cette dualité peut aisément faire de nous parfois de piètres voisins et de piètres amis.
Soif de vie.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. On a commencé l'émission avec, comme d'habitude, un texte de Taureau, un texte plus difficile, plus profond, genre de texte qu'on lit justement une journée comme aujourd'hui en hiver où c'est les périodes de l'année où on est intériorisé, on peut peut-être plus facilement assimiler ce genre de texte plus difficile de Taureau qui parle du témoin intérieur. On voit que Taureau un précurseur là, de la philosophie orientale. Il a vu les grands textes de l'Inde, puis c'est un peu comme il disait. Il parle du témoin intérieur qui est spectateur de nos vies, puis que c'est lui qui finalement reste après le départ, mais qui s'en va comme si notre vie n'était que, en fin de compte, un spectacle, une pièce de théâtre. En tout cas, c'est un texte qui est profond, qui demande réflexion. C'est ça. Taureau est allé beaucoup en profondeur dans sa solitude, dans son isolement pendant 2 ans, dans sa cabane dans le bois. Puis, ce sont des beaux textes qui nous offrent comme ça. Ensuite de ça, comme d'habitude, Richard Séguin qui nous de son disque de CD Retour à Walden dans les bois. Et parlant d'hiver, je fais remarquer qu'hier on disait que c'était le jour de la marmotte. Moi, je préfère parler du jour de la chandeleur qui était fêté ici par nos ancêtres. C'était une fête religieuse. Puis qui est encore fêté en France, la chandeleur. Les gens mangent des crêpes à la chandeleur. Puis chandeleur, c'est le mot chandelle, c'est la fête de la lumière. C'est, en fin de compte, on peut dire le retour de la lumière. Puis pourquoi ils mangent des crêpes? C'est que la crêpe est ronde comme un soleil. C'est un rappel au soleil, l'image du soleil. Tout ça plus intéressant comme idée que le jour de la marmotte, qui est un peu une fête, c'est une tradition qui est plus américaine. C'est les protestants, j'ai jamais trop compris mais l'idée, mais en tout cas, les autres, c'est des marmottes, puis on a importé ça ici, puis on parle du jour de la marmotte. Alors, il me semble qu'on devrait parler du jour de la chandeleur. Puis la chandeleur, c'est une fête païenne qui était fêtée là, chez les Romains, etc., parce que c'est une fête vraiment liée au calendrier astronomique. D'ailleurs, les Chinois, eux, ont un calendrier qui est, on pourrait dire, vraiment astronomique. Pour eux, le milieu de l'hiver, c'est le solstice. C'est le 21 décembre. Pour eux, c'est le milieu de l'hiver. Puis, le début de l'hiver, c'est autour là, de nous, ce qu'on parle de l'Halloween dans ces coins-là. Puis, la fin de l'hiver, le début du printemps, là, c'est autour du 4 février, là, ces jours-ci. Et pourquoi? C'est les journées les plus courtes au niveau de la luminosité là, de l'année, les 3 mois les plus courts, novembre, décembre, janvier. Alors, c'est le retour de la lumière. Fait que c'est une fête que je trouve positive. C'est sûr qu'il y a un décalage quand on dit le printemps, c'est le 4 février, il y a un décalage. Même pour les Chinois, il y a un décalage parce que le printemps en tant que tel, à part peut-être le sud de la Chine, même pour eux autres, sont encore en hiver. Mais comme je disais, les Chinois ont un calendrier astronomique, que je trouve vraiment intéressant. Mais au niveau du vécu, pour nous, c'est difficile à voir le lien entre le printemps et aujourd'hui. Mais il y a ça, c'est que ça, c'est partout. C'est que c'est les journées les plus courtes de l'année, c'est terminé. Maintenant, on a les journées qu'on sent qui rallongent et on le sent à tous les jours. Maintenant, dans l'actualité, dans les lectures que j'ai faites cette semaine, il y a dans le Devoir de mardi, ça c'est un de nos thèmes qu'on va revenir souvent là-dessus, puis c'est beaucoup lié à Saint-Pitié volontaire, la surconsommation. C'est dans le Devoir de mardi dernier, c'était la une du Devoir. Le titre de l'article, c'est « La surconsommation, pire ennemi des forêts ». On aurait tendance à penser que c'est, entre autres, l'élevage, là, comme en Amazonie, qui qui empiète sur l'eau forêt, mais c'est la consommation, c'est l'utilisation notamment du papier et qui est en augmentation. Là, on regarde, et par exemple, là, on a beaucoup, beaucoup de commerce en ligne qui prend le dessus là, sur le commerce traditionnel là, en magasin. Mais le commerce en ligne, ça veut dire des quantités astronomiques de carton qui est utilisé. Et papier hygiénique, etc. Donc, il y a une réflexion à avoir sur notre consommation de papier. Je vais vous lire un petit extrait là, de l'article. Là. C'est un article d'Isabelle Paré dans Le Devoir de mardi dernier. L'agriculture est souvent montrée du doigt dans la déforestation des forêts, cruciale pour la biodiversité. Or, 60% de la disparition des forêts intactes découle maintenant de la demande mondiale croissante pour divers produits de consommation, de l'énergie ou des minerais. C'est du moins ce qu'avancent les chercheurs dans une étude publiée dans One Earth grâce à des données de géolocalisation et des modèles économiques pour évaluer l'impact insidieux des exportations mondiales, non seulement sur la déforestation, mais aussi la dégradation et la fragmentation des forêts intactes sur la planète. Dans ce grand portrait, le Canada est ciblé comme un des pays les plus à risque de perte de forêts intactes, tout comme la Russie, l'Indonésie et l'Australie, en raison de l'accélération des exportations des matières premières. La perte de forêts intactes, ce n'est pas qu'un phénomène tropical. Ça touche aussi des régions boréales, comme le Canada, où il reste beaucoup de ces forêts uniques et irremplaçables, explique Thomas Kastner, co-auteur de cette étude et chercheur senior à l'Institut pour la biodiversité et le climat de Senckenberg en Allemagne. L'étude rappelle que l'intégrité des forêts primaires, jamais exploitées par l'humain, est cruciale pour préserver la biodiversité, mais aussi pour réduire l'impact des changements climatiques en cours, car ces zones stockent jusqu'à 3 fois plus de carbone que les forêts exploitées. Donc, il y a une grosse réflexion à avoir là, sur la consommation en général et particulièrement les produits forestiers. Parce que là, c'est une question de survie, là, si les forêts disparaissent. C'est majeur. Il y a aussi, dans le devoir de jeudi, hier, un article intéressant sur la soie d'Amérique comme substitut au polyester. Alors, la fibre d'asclépiade commune reste très coûteuse car sa récolte se fait toujours de façon quasi artisanale. Ça pourrait à la longue remplacer le polyester comme fibre, entre autres pour isoler l'isolation entre autres dans les manteaux, les mitaines. Ça existe déjà, la fibre d'asclépiade qui est une plante autochtone qu'on encourage d'ailleurs à laisser pousser parce que c'est cette plante-là qui est la plante qui nourrit les papillons monarques. Les gens qui s'intéressent aux monarques demandent de préserver ou de laisser une petite place pour l'asclépiade dans leur jardin. Et ça, le fruit là, produit, c'est un petit fruit, il y a comme un lait qui sort de ce fruit-là quand il est comme mûr, mais une fois que le fruit devient complètement mûr, les graines à l'intérieur, finalement, c'est la manière pour la graine de se répandre. Il y a des petites fibres blanches. Donc, et cette fibre-là, cette soie-là, ça pourrait remplacer le polyester, mais ça sert déjà. Alors, on dit, serait-il possible de remplacer les fibres de polyester provenant du pétrole par les fibres de l'asclépiade commune qui pousse chez nous et que l'on appelle le coton du Québec? La réponse est oui et non. En fait, la question mérite une réponse plus détaillée. tout en nuances, compte tenu des propriétés bien particulières de cette merveilleuse plante, aussi appelée soie d'Amérique. Il faut d'abord savoir que l'asclépiade pousse à l'état naturel au Québec et est essentielle au cycle de reproduction du papillon monarque, une espèce en danger qui migre jusqu'au Mexique pour passer l'hiver. Cette plante s'est récemment fait connaître en raison du potentiel isolant et hydrofuge des longues soies blanches contenues dans ses fruits longiformes. Les propriétés de cette soie suscitent depuis quelques années l'intérêt des fabricants de vêtements de plein air qui voient en cette fibre un isolant plus écologique et plus efficace que le polyester ou le duvet pour affronter la saison froide. Oui, la fibre d'asclépiade a toutes les qualités pour remplacer le polyester comme isolant synthétique dans les vêtements de plein air. Le problème, c'est qu'en raison de sa grande volatilité, elle doit d'abord être intégrée à une membrane pour pouvoir être cousu à un vêtement. Pour la tisser, il faudrait coller les fibres en un liant et on risque alors de perdre ses propriétés isolantes et hydrofuges. Alors, il y a une petite entreprise, là, il y a quelques entreprises au Québec qui le font, mais ils ont trouvé une manière de combiner cette fibre-là avec d'autres fibres pour en faire un composé qui est plus approprié là, pour l'utilisation dans les vêtements. Alors ça, voilà, c'était un article sur l'asclépiade dans le devoir d'hier. Maintenant, dans le devoir d'aujourd'hui, on parle d'énergie solaire. Ça aussi, c'est l'avenir là, au niveau énergétique. Et de plus en plus, on va voir au Québec des gens installer des panneaux solaires sur leur toit ou des panneaux solaires un peu partout parce que le prix du solaire est appelé à devenir moins élevé que le prix de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité servira à ce moment-là de régularisateur énergétique, même pour l'Amérique du Nord, c'est comme une batterie dans le fond. Et le solaire qui est inégal serait une des sources d'approvisionnement énergétique, là, en tout cas pourrait occuper un bon pourcentage de notre consommation énergétique. Mais là, il y a un problème, là, en tout cas, c'est avec Hydro-Québec, là, on explique dans l'article que c'est pas encore tout à fait à point que les Hydro-Québec permet pas présentement, là, pour les gros producteurs, en tout cas, là, de revendre leur surplus à Hydro-Québec. L'article ne précise pas pourquoi, mais en tout cas, c'est dans le devoir d'aujourd'hui, si ça vous intéresse, l'idée du solaire qui se développe au Québec. Aussi, dans le devoir de lundi, un article sur livre de Frédéric Lenoir, dont je vais vous parler tantôt. Frédéric Lenoir explore la relation trouble de l'Homo sapiens avec le désir. Alors, il vient de publier un livre, là, je crois que c'est « Le désir quand tu nous tiens ». Non, excusez, c'est « Cultiver le désir ». Ça, c'est le titre de l'article dans Le Devoir, c'est « Le désir quand tu nous tiens ». Mais c'est le livre, c'est « Cultiver le désir ». Frédéric Lenoir, c'est un disciple de Spinoza. Puis Spinoza avait une vision, en tout cas, d'utiliser différente des philosophes traditionnels, dans le sens que les philosophes traditionnels, ils se méfiaient du désir, il fallait contrôler. Puis nos désirs, nous a une petite nuance là-dessus. Il dit que le désir, c'est un peu ce qui nous motive dans la vie. C'est pas le désir nécessairement, comme on l'entend, le sexuel, mais c'est le désir de vivre, ce qui nous motive dans la vie. Puis Spinoza nous dit que c'est important de cultiver ça. L'article commence, « Le désir est l'essence même de l'espèce humaine, mais cet éternel glouton est insatiable. Dans son dernier opus, « Cultiver le désir et vivre aux éclats », l'auteur Frédéric Lenoir relate de Platon à aujourd'hui, le rapport trouble de l'homo sapiens avec le désir, cette pulsion innée inscrite au plus profond de nos gènes. Ah, désir quand tu nous tiens. À première vue, on pense que le nouvel ouvrage du philosophe et sociologue français, consacré tout entier au sursaut de la libido, mais il n'en est rien. Chez l'humain, le désir est omniprésent, du sexe à l'estomac, de la reconnaissance sociale à l'ambition professionnelle. Les animaux n'ont que des désirs primaires, comme manger, boire et dormir, qui cessent une fois qu'ils sont comblés. Chez l'homme, la notion de désir est infinie, s'étend à toutes les dimensions de son être et de ses interactions sociales, affirme Frédéric Lenoir. Un hic qui découle notamment du fameux bug humain, amplement décrit par le journaliste Sébastien Boller dans son livre du même nom. L'humain est à la merci de son striatum, cerveau reptilien, enfoui dans la matière grise, qui le gratifie d'une généreuse dose de dopamine chaque fois qu'un désir primaire est comblé, jusqu'au prochain. Tout le high ressenti après l'achat d'une voiture rutilante, après une nouvelle conquête amoureuse, l'obtention d'une promotion, une victoire contre l'équipe adverse. Platon avait décrété « L'homme esclave de cette pulsion dévorante qui le pousse à désirer ce qui lui échappe. » Dès l'Antiquité, explique Lenoir, les philosophes ont associé le désir à une passion destructive, à une pulsion menant à l'envie, la jalousie et à la destruction, voire à la perte. Les codes de sagesse de l'Antiquité ont donc prôné le contrôle, voire l'éradication du désir. Puis Aristote a plutôt décrit le désir comme une force intérieure chez l'humain, lui insufflant le désir constant d'apprendre, de découvrir, etc. Alors, on voit même, ça commence avec, Aristote, là, on nuance un peu là, le désir au lieu de dire qu'il fallait faire attention, contrôler nos désirs. Bref, je vais vous en parler tantôt, le dernier livre de Frédéric Lenoir. Alors, on prend une petite pause musicale, puis justement, je vous reviens avec quelques extraits du livre de Frédéric Lenoir.
kilomètres, ils font réfléchir. Le rouge et le noir ne veulent pas vieillir. Ils invitent les gens à tout rebâtir. Bien plus d'inconnus dans la balance. J'aimerais que les cœurs y dansent. Bien plus d'inconnus dans la balance. Où j'aimerais que les cœurs y dansent.
C'était Jean-Marc Aurel. Le nom de la pièce, c'est « Mon délire » de l'album « L'esprit reste ». Alors, c'est ça, je vous parlais là, avant la pause musicale du dernier livre de Frédéric Lenoir, « Cultiver le désir et vivre aux éclats ». Alors, comme je vous mentionnais, Frédéric Lenoir est beaucoup inspiré par Spinoza. On pourrait dire que c'est un spinoziste. Et fait que son livre est proche de la philosophie de Spinoza, disons. Alors voici, je vais vous lire quelques extraits de l'introduction du livre de Frédéric Lenoir qui s'intitule « Qui cultiver le désir et vivre aux éclats ». « Le désir est l'essence de l'homme », écrivait le philosophe Baruch Spinoza au XVIIe siècle. Par son caractère infini, il est peut-être ce qui nous caractérise en propre, mais il est surtout le moteur de nos existences. Que voudrait une vie sans désir? C'est leur variété et leur intensité qui nous poussent à agir et qui nous donnent le sentiment d'être pleinement vivants. L'absence de désir, dont la dépression est un symptôme moderne, signe l'affaissement de notre puissance vitale. En même temps, le désir peut nous conduire à la passion destructrice ou illusoire, à une insatisfaction permanente, à la haine ou la frustration née de l'envie ou de la convoitise ou à toutes sortes d'addictions qui nous privent de notre liberté intérieure. L'ultime film de Luis Buñuel s'intitule très joliment « cet obscur objet du désir ». On pourrait dire aussi « cet obscur sujet du désir », tant cette notion riche et complexe tend à échapper à notre entendement. Qu'est-ce qui distingue le désir du besoin? Quelle est la nature du désir? Comment savoir qu'un désir est bon ou pas? Ici, quand on parle de besoin, ça, on en a beaucoup parlé, c'est Épicure qui a beaucoup parlé de ça, là, qu'il fallait réduire nos besoins. Puis Jacques Sénécal nous en a parlé beaucoup, là, les besoins non nécessaires, si on peut les éviter, c'est eux autres qui nous rendent malheureux. Puis, Spinoza avait, pas Spinoza, mais Épicure avait, disons, une vision un peu différente de ça, mais tous ces philosophes se rejoignent. C'est juste qu'il y a des nuances. Puis c'est ce que c'est que Spinoza apporte ici. Mais comme je disais, Épicure disait qu'il fallait se réduire nos besoins. Alors, comment accueillir nos désirs les plus personnels et ne plus imiter ceux des autres? Comment échapper à l'insatisfaction permanente pour exprimer nos désirs de manière juste et ressentir une joie profonde? Telle est l'ambition de ce livre. Éclairer d'un point de vue philosophique la notion de désir et proposer un manuel d'éducation au désir. Cette force si puissante qui mobilise notre corps, notre cœur et notre esprit pour le meilleur comme pour le pire. Car si la plupart de nos bonheurs proviennent de la satisfaction de nos désirs, la plupart des malheurs aussi. Dès lors, comment éviter le pire et tendre vers le meilleur? Peut-on apprendre à désirer ou à bien orienter nos désirs? Alors, il dit, bon, lui, il parle des désirs aliénants, des désirs libérateurs. Les études scientifiques les plus récentes ont montré que notre cerveau primaire, le striatum, donnait l'impression de nos désirs fondamentaux, de nourriture, de sexe, de reconnaissance sociale ou d'information. Elles ont aussi montré qu'il ne pose aucune limite à cette quête, qui est récompensée par la substance chimique du plaisir, la dopamine. Soumis à son striatum, l'être humain est donc mu par une soif illimitée de ses désirs primaires et du plaisir qu'il lui procure. D'autres chercheurs contemporains, comme l'anthropologue René Girard, ont également montré que le désir humain était essentiellement mimétique. Nous désirons ce que les autres désirent, et que la comparaison sociale se trouvait au cœur de ses motivations. Ces constatations ne font que confirmer ce que les philosophes de l'Antiquité, d'Orient et d'Occident, avaient parfaitement observé. Le désir tient un rôle essentiel dans nos vies et notre bonheur, comme notre malheur dépend de sa maîtrise. L'être humain doit apprendre à réguler ses désirs. C'est le fondement même de l'éducation et de la civilisation. À partir de ce constat unanime, plusieurs chemins de régulation du désir se dessinent. Celui de la loi religieuse qui a prévu très longtemps et qui continue d'exercer une forte influence. Celui de la philosophie grecque et des courants de sagesse d'Orient qui s'appuient sur la raison afin d'ordonner les désirs, de les limiter et parfois de les supprimer. Celui, enfin, développé par Spinoza, qui propose plutôt une juste réorientation des désirs, sans pour autant viser à diminuer la force désirante de l'être humain, conçu comme le véritable moteur de nos existences. Le désir n'est plus perçu comme un manque ou un problème, mais comme une puissance qu'il convient d'orienter de manière juste. Il ne faut donc surtout pas le diminuer, encore moins l'éliminer, mais l'éclairer et le cultiver, et ainsi passer de la servitude des affects à la puissance de la liberté intérieure. C'est cette dernière voie qui me semble la plus pertinente, mais aussi la plus adaptée aux besoins de notre époque. Épuisé, en effet, par 3 années de pandémie, angoissé par les conséquences du dérèglement climatique, de la guerre en Ukraine ou la baisse du pouvoir d'achat, désabusé par le politique et méfiant à l'égard de toutes les institutions, nombre de nos contemporains se sentent fragiles et atteints sur un plan moral et psychologique. Il en résulte un affaissement de ce que le philosophe Henri Bergson appelait l'élan vital et une diminution de notre force désirante, qui peut affecter tous les domaines de l'existence, professionnel, amoureux, sexuel, intellectuel, etc. On se sent moins vivant, on jouit moins intensément de la vie, la tristesse l'emportant souvent sur la joie. Cela conduit certains à se poser des questions et à chercher à réorienter leur vie vers d'autres valeurs que le consumérisme et la reconnaissance sociale, à lui donner davantage de sens, à vivre plus sobrement. C'est ainsi que de nombreux jeunes cherchent à échapper au modèle dominant, notamment dans le domaine professionnel, mais aussi sexuel, qui ne correspond pas à leurs désirs profonds, davantage tournés vers l'être et la qualité de vie que vers l'avoir et la performance. mais de manière paradoxale, et cela est vrai pour toutes les crises de vie et ne date pas d'aujourd'hui, cet épuisement de l'élan vital et du désir se traduit aussi par une exacerbation des désirs les plus matériels, on pourrait dire des envies qui apparaissent comme des compensations à cette forme de déprime. On consomme pour se donner des mini-shoots de plaisir. Ce consumérisme peut prendre diverses formes, achats compulsifs, addiction au sexe, aux jeux, aux réseaux sociaux, besoin de reconnaissance sociale exacerbée, etc. Nos puissants désirs et nos grandes joies se transforment ainsi en petites envies et en vains plaisirs. Et nous devenons parfois les esclaves de ces envies et de ces plaisirs sans que ceux-ci satisfassent vraiment notre soif profonde. Je suis convaincu que nous ne retrouverons notre liberté et une joie véritable qu'en cultivant l'élan vital, en réveillant nos désirs les plus personnels en les orientant vers des objets qui nous font grandir, qui donnent du sens à nos vies, qui nous permettent de nous réaliser pleinement selon notre nature singulière. Mais comme l'univers du désir est un monde vaste et complexe, commençons par essayer de le définir et de nous interroger sur sa nature. Alors voilà quelques extraits là, du livre de Frédéric Lerenoir, « Cultiver le désir », sur lequel je vais revenir là, dans les semaines qui viennent. Je vais un peu vous partager ma lecture de cette réflexion-là sur les désirs, parce que c'est un thème qui est beaucoup au cœur de la Saint-Pierre volontaire, les besoins, les désirs, en tout cas. Tout ça intéressant, ce que M. Lenoir nous présente. On va revenir là-dessus. Alors, on prend une petite pause musicale. Et au retour, je vais continuer notre série sur les vertus. Alors, c'était le canon de Pachelbel, des œuvres baroques. Hein, quand on parle de la période baroque, c'est un petit clin d'œil aussi par rapport à Spinoza qui vivait à cette époque-là. Alors, c'est une musique qui date de l'époque de Spinoza, les canons de Pachelbel. Très belle pièce musicale. Alors, je poursuis avec la série sur les vertus. C'est toujours tiré du livre d'André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus. Et aujourd'hui, je vais parler de la vertu de l'humour. L'humour, c'est une vertu qui est près de celle de l'humilité. L'humour, c'est pas se prendre au sérieux. On en a besoin de pas se prendre trop au sérieux. Alors, je vais vous lire quelques extraits du livre de Comte-Sponville sur l'humour. Alors, qu'il soit une vertu pourra surprendre, mais c'est que tout sérieux est coupable portant sur soi. L'humour nous en préserve et, outre le plaisir qu'on y prend, est estimé pour cela. Si le sérieux désigne la situation intermédiaire d'un homme équidistant entre désespoir et futilité, comme dit joliment Yankelevitch, il faut observer que l'humour est au contraire opte résolument pour les deux extrêmes. Politesse du désespoir, disait Boris Vian, et la futilité peut en faire partie. Il est impoli de se donner l'air important. Il est ridicule de se prendre au sérieux. Manquer d'humour, c'est manquer d'humilité, c'est manquer de lucidité, c'est manquer de légèreté. C'est être trop plein de soi, trop dupe de soi. C'est être trop sévère ou trop agressif. C'est manquer par là, presque toujours, de générosité, de douceur, de miséricorde. Trop sérieux, même dans la vertu, a quelque chose de suspect et d'inquiétant. Il doit y avoir quelques illusions ou quelques fanatismes là-dessous. C'est vertu qui se croit et qui n'en manque par là. N'exagérons pas pourtant l'importance de l'humour. Un salaud peut en avoir, un héros peut en manquer. Mais cela est vrai, nous l'avons vu de la plupart des vertus et ne prouve rien contre l'humour, sinon, ce qui est bien clair, qu'il ne prouve rien. Mais s'il voulait prouver, serait-il encore de l'humour? Vertu annexe, si l'on veut, ou composite, vertu légère, vertu inessentielle, drôle de vertu en un sens, puisqu'elle se moque de la morale, puisqu'elle se contente d'être drôle, mais grande qualité, mais précieuse qualité, dont un homme de bien peut manquer, certes, mais non pas sans que cela atteigne en quelque chose l'estime, même morale, que nous avons de lui. Un saint sans humour est un triste saint, et un sage sans humour serait seulement un sage. L'esprit est ce qui se moque de tout, disait Alain, le philosophe Alain. C'est en quoi l'humour fait partie de plein droit de l'esprit. Cela n'interdit pas le sérieux pour ce qui concerne autrui, nos obligations à son égard, nos engagements, nos responsabilités, voire pour ce qui concerne la conduite de notre propre existence. Mais cela interdit d'en être dupe ou trop satisfait. Vanité des vanités, il n'a manqué à l'Ecclésiaste qu'un peu d'humour pour dire l'essentiel. Un peu d'humour, un peu d'amour, un peu de joie. Même sans raison, même contre la raison. Entre désespoir et futilité, il arrive que la vertu soit moins dans un juste milieu que dans la capacité d'embrasser, dans un même regard ou dans un même sourire, l'un et l'autre de ces deux extrêmes entre lesquels nous vivons, entre lesquels nous évoluons et qui se rejoignent dans l'humour. Qu'est-ce qui n'est pas désespérant pour un regard lucide? Et qu'est-ce qui n'est pas futile pour un regard désespéré? Cela n'interdit pas d'en rire, et même c'est le mieux sans doute que nous puissions faire. Que vaudrait l'amour sans la joie? Que vaudrait la joie sans l'humour? Tout ce qui n'est pas tragique est dérisoire. Voilà ce qu'enseigne la lucidité. Et l'humour ajoute, dans un sourire, que ce n'est pas tragique. Vérité de l'humour, la situation est désespérée, mais pas grave. Ici, il nous parle des deux grands philosophes de l'Antiquité, Démocrite et Héraclite. La tradition oppose le rire de Démocrite aux larmes d'Héraclite. Démocrite et Héraclite, se souvient Montaigne, ont été deux philosophes desquels le premier, trouvant vaine et ridicule l'humaine condition, ne sortait en public qu'avec un visage moqueur et riant. Héraclite, ayant pitié et compassion de cette même condition nôtre, en portait le visage continuellement attristé et les yeux chargés de larmes. Et certes, ce ne sont pas les raisons qui manquent de rire ou de pleurer. Mais quelle attitude vaut mieux? Le réel ne tranche pas. Qui ne rit ni ne pleure? Cela ne veut pas dire qu'on ait le choix, ou cela ne veut pas dire du moins que ce choix dépende de nous. Je dirais plutôt qu'il nous constitue, qu'il nous traverse, rire ou larmes, rire et larmes, que nous oscillons entre ces deux pôles, les uns penchant plutôt vers celui-ci, les autres plutôt vers celui-là, mélancolie contre gaieté. Ce n'est pas si simple. Montaigne, qui avait ses moments de tristesse, d'accablement, de dégoût, n'en préfère pas moins Démocrite. « J'aime mieux la première humeur, explique-t-il, non parce qu'il est plus plaisant de rire que de pleurer, mais parce qu'elle est plus dédaigneuse et qu'elle nous condamne plus que l'autre. Il me semble que nous ne pouvons jamais être assez méprisés de notre mérite. En pleurer, ce serait se prendre trop au sérieux. Mieux vaut en rire. Je ne pense point qu'il y ait tant de malheur en nous comme il y a de vanité, ni tant de malice comme de sottise. Notre propre et péculière condition est autant ridicule que risible. À quoi bon se lamenter pour si peu, pour ce peu que nous sommes? À quoi bon se haïr? Ce qu'on est, on le prend à cœur, quand il suffit de rire. » Alors, c'était quelques extraits de André Comte-Sponville sur l'humour. Je pense que c'est, on en a besoin. C'est de pas se prendre au sérieux, de rire de la réalité qui est pas toujours facile, qui est pas toujours évidente. Et aussi, on peut aussi essayer de trouver la joie dans tout ça, comme Frédéric Lenoir nous le propose dans Cultiver le désir et vivre aux éclats. Et là-dessus, je vais faire une petite mini-pause musicale, puis on va conclure l'émission après ça. C'est encore une pièce baroque, une pièce de Bach. En passant, on a parlé de Montaigne. Montaigne aussi était de l'époque baroque, comme Spinoza. Alors, et Bach, ils étaient tous des contemporains. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne chandeleur. Et à la semaine prochaine, on va poursuivre avec Frédéric Lenoir.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Marie est pas rentrée au bureau ce matin?
Non, elle fait de la fièvre.
Oh, elle est bien attentionnée.
Ça, c'est une femme de principe.
En plus, elle met un masque au centre d'achat et elle se lave les mains pendant 20 secondes.
Moi, le monde trop parfait, là.
Et quand t'as mal à la gorge, qu'elle tousse ou qu'elle coule du nez, elle met un masque aussi.
Ah! Ça, c'est une femme droite.
J'en reviens pas.
Elle a le savoir-vivre dans le tapis. Moi, ça me touche.
Je suis ému.
Je lui donne ma chaise de bureau.
Pour le bien de tous, adoptons de bonnes habitudes face au virus. Un message du gouvernement du Québec.
La Ligue d'improvisation musicale de Québec présente un match le lundi 6 février sur la scène de l'Impérial Bell. Les jaunes et les verts s'affrontent sur des thèmes précieusement préparés par l'arbitre. Le lundi 6 février à 19h30 à l'Impérial Bell, pour l'entendre pour le voir. Impromusical.com.
Ta cafetière expresso vient de rendre l'âme? Pas de panique! Depuis plus de 30 ans, Sobab est l'expert en cafetière expresso. Ses techniciens chevronnés sauront réparer ta précieuse machine. Café Sobab, une passion qui nous réunit. 566 3e Avenue, Limoilou. CaféSobab.com.
Monde musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Monde Musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.